Chantal, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Guillaume Angoué, Albert Agou, Daniel Morin, Chano et Charles Ornac. Et notre invité, Monsieur Pierre Dutour.
Un vendredi.
Vendredi, c'est ça qui est beau. Et Pierre Arditi, soyez bienvenus, Pierre. On est ravis de vous accueillir.
Je suis absolument ravi.
À partir de la non, pas la semaine prochaine, c'est un peu plus loin. C'est le 22 février que ça commence.
Oui, non, mais quelle heure il est là, il est
prêt. C'est le 22 février. Le cas Schneider, c'est au théâtre de l'Atelier. Cette pièce incarnée, portée par Pierre Arditi. Est-ce que mon père, Albert, vous avez compris pourquoi nous avons invité Pierre Arditi?
Mais oui, Nangui, je le sais. Du moins, je le sais, mais je connais du moins les raisons que j'aurais, moi, de l'inviter, car les vôtres ne reflètent pas une grande rectitude journalistique. Ah bon ? Si j'en crois ce que vous avez marmonné tout à l'heure à Jean-Baptiste Bussière, qui est derrière la vitre, là, notre rédac-chef, quand il vous a prévenu pendant les infos de 11h que vous alliez recevoir Pierre Arditi. Alors je vous cite, Pierre Arditi, génial ! Quel que soit le sujet, il tient le crachoir pendant toute une émission. Tu peux même prévoir la suppression des disques et les rubriques de Guillermo Guise et de Daniel Morin. Mais demande surtout à Leïla d'essayer pour une fois d'être moins interminable quand elle s'écoute parler. Et même moi, Nagui, je vais tenter l'impossible, poser des questions courtes. De toute façon, le père Albert va faire un pitch, comme d'hab, impeccablement synthétique. J'embrayerai et Arditi fera le reste. Voilà ce que j'ai entendu, Pierre Arditi, et croyez bien que j'en suis encore vraiment choqué. Pour ma part, je sais bien sûr que ce qui motive votre venue, c'est le cas Schneider, parce que son nom est écorché dans la pièce à plusieurs reprises. Donc je vais essayer de bien le prononcer.
C'est un effet, monsieur.
Adaptation, en effet, oui, effectivement, comique. J'ai... Adaptation théâtrale de Didier Besaz, d'après l'excellent roman de Jean-Paul Dubois. Ouais. Effectivement, je vais en faire le pitch. Paul Schneider est l'unique survivant d'un accident d'ascenseur. Sa fille a perdu la vie, malheureusement. Depuis ce jour, sa perception de la réalité s'est affinée. Le voici désabusé de tout, obsédé par l'étude de la verticalité qui fut à l'origine de son malheur. Voulant rompre avec son passé, trempé par sa femme qui aime le poulet, il décide de changer et se retrouve à promener des chiens, une activité qui, in fine, il ramasse en plus, devient attrayante et donne un sens à sa vie. Alors, est-ce une comédie grinçante ? Me pose des questions. Un songe cruel, un drame humain où la noirceur et l'humour se marient étrangement. Toujours est-il que j'étais bouleversé par Paul, le personnage que vous incarnez, Pierre Arditi, et tout particulièrement par le passage suivant, qui s'applique à ma camionnette bâchicuire toute noire immatriculée, garée au bois de Boubou, allée des branleurs, qui sert de refuge et de backroom pour les jeunes en recherche. Passage qui s'applique également à mon dur labeur dans ce studio. Vous allez comprendre. Je cite. Un chercheur spécialisé dans les études de proximité a établi que pour un être humain, un territoire de 0,9 mètres minimum...
0,90 mètres carrés minimum.
Voilà, minimum, bravo. Bien, bien, vous connaissez
lui,
votre
lui
texte.
Son texte, c'est ça.
Constitue une zone d'intimité acceptable, à condition que les corps soient au moins séparés par 40 cm. En deçà, tout homme est indisposé par la chaleur et l'odeur corporelle de son voisin. Étant assis à quelques millimètres seulement de Daniel Morin, je peux vous dire que cette étude est d'un point de vue olfactif extrêmement pertinent. Aussi vais-je interrompre ce préambule pour aller m'aérer un peu. Ah, j'allais oublier, Pierre Arditi. Comme je sais que vous êtes un tintinophile avisé, je profite de l'absence de mon ami Albert Algou, aussi talentueux qu'honnête, aussi humble que modeste, et qui se refuse absolument à profiter de l'antenne pour faire de l'autopromotion éhontée, j'en profite pour vous offrir, en cachette, il ne le saura pas, son formidable dictionnaire amoureux de Tintin, paru chez Plon. Et il y est aussi question de l'ascenseur de l'hôtel Cornavin, que vous connaissez bien, fréquenté par Tournesol, Tintin et Adolphe. Voilà, merci les amis.
Dictionnaire
merci
amoureux de Tintin. Merci.
La bande originale. Nagui.
C'est super. Mais lui non plus ne savait pas que je venais parce qu'il ne me l'a pas dédicacé. Voilà, alors il va mettre un mot là-dessus.
Mais je vais lui dire, hein, je vais lui demander.
Mais il n'est pas là, Albert. Il n'est pas là, Albert. Mais Père Albert, il imite très bien sa signature.
Vous allez me.
Le cas Schneider, le nom de ce monsieur Paul Schneider, victime d'un terrible accident d'ascenseur et traumatisé par cet accident, il se retrouve, il se referme, il se replie sur lui-même, il étudie toutes les brochures, les documentations possible et imaginable. Sa femme, elle, continue de vivre sa vie, essaye de le sortir du deuil dans lequel il est. Elle vit tellement bien sa vie qu'elle la vit avec un autre.
Un poulet fermier.
Il se sent
avec un ontarien qu'elle voit régulièrement le mardi et le vendredi. Puisque ça se passe au Canada. Quand elle rentre chez elle, elle vit avec un poulet et il lui demande toujours, cet infirmier, elle dit, tu sais bien que je n'achète que des fermiers, ça veut dire qu'elle est passée à la casserole juste avant de passer chez le volailler.
Et selon une formule employée très délicate, il ne dit rien et il avale. Sous-entendu, il avale et le mensonge et le poulet.
Je goûte, j'avale.
Le mardi, j'avale.
Je ne dis rien, mais je ne dors pas.
C'est ça. En effet, il est... évidemment tourmenté. La question que se posait Albert est de savoir est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des, moments drôles, d'humour noir, mais il y a des moments aussi de deuil, de torture et de réflexion.
Ça n'est pas contradictoire, c'est complémentaire, mon cher Nagui. C'est à la fois hilarant et en même temps désespéré. Et la grande vertu de l'une des grandes vertus de Jean-Paul Dubois, parce qu'il en a beaucoup, c'est de. Moi, je n'ai pas voulu lire le livre, hein, parce que j'ai lu d'accord. directement l'adaptation de Besace. Je voulais pas être influencé, parce que vous savez bien que quand on lit un livre, ouais. on devient le co-auteur de ce livre, puisqu'on se fabrique soi-même ses bien images sûr. Et la respiration du bouquin. Et donc, je ne voulais pas m'encombrer avec quelque chose que le metteur en scène ne me demanderait pas. Mais l'adaptation de Besace est absolument magnifique. D'ailleurs, il y a une grande partie du texte de Dubois qui est intégralement...
Respecté.
Oui, ouais. complètement. Il a rien écrit de... C'est très dialogué d'abord. Et ensuite, il y a toute une série de réflexions internes, parce qu'on rentre dans le cerveau du personnage. On ne peut pas faire ça au cinéma. Il y a eu un film du bouquin, qui s'appelle Le Casse-Neige, qui a été incarné très bien, d'ailleurs, je crois, par Thierry Lhermitte.
Que vous n'avez pas vu non plus.
Hein. Nagui m'a dit qu'il était meilleur que vous.
Oui, mais je pense qu'il doit être meilleur que moi, dans un certain sens. Et pour la partie cérébrale, peut-être que je vais pouvoir faire jeu égal avec lui. Mais au cinéma, on peut faire des tas de choses, mais il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire par rapport au théâtre.
Justement, comment faire cette mise en scène où vous êtes à la fois au centre de la scène en train de nous parler, de nous raconter ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et toutes ces petites scènes périphériques qui vont faire que vous allez vous remémorer par exemple l'existence de votre fille qui est morte également dans l'ascenseur, qui a disparu dans cet ascenseur, de votre femme qui vous trompe, qui va et qui vient, de la balade, des promenades,
puisque vous faites
dog walker.
Promeneur pour chien, si tu préfères.
J'ai choisi
la terminologie anglaise pour conserver le ton managérial.
Donc il y a beaucoup de scènes.
C'est bien mon texte.
Ouais, j'avais bien.
Je suis content.
Il y a beaucoup de scènes, de décors différents aussi.
Oui. Mais vous savez que à mon sens, la grande vertu du théâtre, c'est qu'on fait rien à la place du spectateur. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'on est en train de promener un chien. Alors on va le voir d'ailleurs. Il y a un vrai chien. Que je maîtrise plus ou moins pour le moment, mais je vais y arriver. Mais il est super, c'est un chien génial, mais bon, c'est pas de la tarte.
C'est super dur de jouer avec un chien.
C'est-à-dire que c'est comme les enfants, on a intérêt à être bon en face parce qu'on ne voit que le chien ou l'enfant.
C'est quoi. Ça.
Bon,
donc il faut tellement ils sont naturels, vous voulez dire.
Mais au théâtre, contrairement au cinéma, on vous montre rien. Au cinéma, on vous dit que vous êtes à Rio et l'image d'après, vous êtes à Rio. Au théâtre, on vous dit que vous êtes à Rio et l'image d'après, vous êtes toujours dans les trois murs du théâtre et que le quatrième mur imagine que vous y êtes parce que votre boulot, c'est de leur faire croire que vous êtes à Rio. Donc, il y a ça. On voit toutes ces petites scènes qui ne sont pas périphériques, d'ailleurs. Qui sont les scènes de sa vie ordinaire et antérieure, mais il a fait comme la mère, il s'est retiré. C'est-à-dire qu'il est obsédé par cette mort, la mort de cette fille, et donc il s'enferme, et sur les murs de l'appartement, il n'y a plus que des calculs savants sur les mécanismes d'ascenseur, sur des calculs, sur la portance des câbles de soutien, la résistance des câbles de soutien. Donc en fait, il est cérébralement ailleurs, totalement ailleurs.
Il est
donc
obsédé par cette verticalité sans cesse.
Tous les passages, puisque vous avez lu l'adaptation, des narrations, c'est ma voix, mais c'est ma voix qu'on entend sur des actions qui sont différentes. Ça, c'est absolument
d'accord.
magnifique dans la mise en scène.
Donc
parce que
c'est une bonne idée de mise en scène.
Oui, ouais. Parce que sinon, ça devient simplement une narration. À ce moment-là, il n'y a qu'à lire le bouquin, quoi. C'est pas la
non,
peine
c'est un contrepoint, là, qui est formidable.
Oui, c'est
et,
très.
Et pour avoir lu le livre, je trouve que l'adaptation théâtrale, le texte, en tout cas, que nous, on a pu lire, il est vraiment très bien fait.
C'est brillant. Hein.
C'est pas simple. Le roman de Jean-Paul Dubois, il est très dense.
Oui.
Il donne lieu, dans les premières pages, par exemple, à toute cette réflexion sur la verticalité qui obsède le personnage que vous incarnez, qui le conduit aussi à mener tout à
tas. Il part d'une logique que toutes les villes sont construites autour des ascenseurs.
C'est
oui, enfin, il ne part pas de... Enfin, oui.
Il constate.
Il finit
ouais.
Pardon,
la démarche de Schneider, c'est qu'à un moment donné, à travers tous ces calculs ou ces lectures de brochures spécialisées dans les ascenseurs, il lit même un roman, L'Intuitionniste, qui d'ailleurs existe. Moi, je croyais que c'était une invention de Jean-Paul Dubois. Et hier, Bezas m'a amené le bouquin de L'Intuitionniste. C'est un bouquin américain qui existe effectivement, qui se passe dans le milieu des réparateurs d'ascenseurs. Mais il dit, ça m'a pas appris grand-chose. Au cours de cette longue quête comme ça de compréhension, il en arrive à comprendre que le c'est pas les mécanismes comme ça, c'est l'ascenseur dirige nos vies. C'est lui le centre de l'existence, c'est lui, on croit qu'on le commande, en réalité on est des esclaves. La première chose qu'on construit dans un immeuble, c'est l'ascenseur. Ensuite, on met un immeuble dessus pour camoufler la machinerie. Et puis, on met des gens qui, le soir, allument des lumières aux fenêtres pour faire croire que c'est un peu plus vivant. Mais en réalité, c'est les ascenseurs qui habitent l'immeuble.
Et voilà. On rajoute deux boutons.
Ce qui est iconoclaste, c'est magnifique.
Et on rajoute deux boutons pour lui faire croire qu'il a le pouvoir sur la machine.
Voilà.
Pour
mais le bouton, en réalité, marche sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a rien à commander.
Mais vous savez quoi? Je me suis fait cette parano-là. En lisant la
c'est formidable.
C'est peut-être vrai. Et la première chose que j'ai faite en arrivant dans l'ascenseur de Radio France le lendemain, c'est de vite appuyer sur le bouton pour voir si les portes se refermaient. Je dis ok, je maîtrise la machine. Donc il peut y avoir un impact.
Il y a des petites satisfactions dans la vie, Nagui.
Illusion temporaire.
Il a des goûts simples.
Il reste humain.
Il appuie sur le bouton de l'ascenseur. Ah, ça monte.
Il est content.
Mais en tout cas, la réflexion menée par Dubois, moi, je la trouve absolument brillante. Sur la société, en plus, en général, cette notion d'entassement, d'élévation.
Il dit ça, oui. L'ascenseur a permis de construire des tours de plus en plus hautes, il a fait vivre et dormir des êtres humains les uns au-dessus des autres, il a permis à nos villes de se redresser sur leurs pattes arrière pour narguer le ciel, il a généré des cités malades et il a tué ma fille.
Ouais, c'est beau, c'est absolument brillant.
Ce qui est bien, c'est qu'il répète son texte en même temps.
C'est pas ça, mais je vérifie que d'une certaine manière,
vous le connaissez
je
bien.
Peux me servir de ce absolument. Texte absolument magnifique pour vous répondre.
Vous
ce qui veut
bien.
Quand même dire que...
Que les réponses sont
dire,
dans le texte.
Non, ce qui veut dire que d'abord...
Les questions sont
que
bonnes.
Que les questions sont pas mal, mais ça veut dire surtout que ce texte,
il est à vous.
Oui, il sort de ma bouche maintenant.
Et vraiment, pour ceux qui ont lu le roman et qui auraient peur, ou ceux qui ne l'ont pas lu, on a vraiment la substantifique moelle du texte de Dubois. C'est pas simple. Et c'était vraiment pas simple.
Oui, ça, c'est le boulot de Bezas.
Moi, j'ai vraiment peur en commençant le texte, en me disant comment faire pour ne pas perdre toute la dimension très subtile que peut avoir Dubois dans ses analyses, dans la façon de camper ses personnages et les donner à vivre pour les voir évoluer. Et là, il faut vraiment reconnaître qu'il n'y a aucune trahison. Est-ce que Jean-Paul Dubois, vous l'avez vu, il a réagi au texte?
Non, Didier a parlé avec lui, mais moi je connais l'écrivain, mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc je pense que je vais le rencontrer là, mais ça me plaît beaucoup de le rencontrer. Alors c'est pour ça que j'ai pas voulu lire le livre, parce que vous voyez, je l'ai jamais vu moi physiquement, Jean-Paul Dubois. Je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas comment il est physiquement.
Un bel homme.
Mais de le rencontrer, ça pourrait vous influencer aussi. De lire le livre,
non, c'est pas ça. C'est que je veux dire que je me suis fait dans ma tête une idée de ce qu'il est physiquement, comme souvent quand.
Oui, bien sûr.
Donc quand je vais le voir, je vais sans doute avoir un choc parce qu'il ressemblera peut-être pas à ce que j'ai imaginé de lui. J'en sais rien.
C'est au théâtre de l'Atelier à partir du 22 février. Le cas Snejder avec Pierre Arditi, mais également Charles Roger Bourg, Sylvie Debrun, Morgane Fourcault, Thierry Gibault. Et le chien Fox, quand même, qu'il faut saluer.
Qui, en fait, s'appellera Charlie, mais on est en train de s'habituer à ce qu'il s'appelle Charlie, ce qui est pas simple, mais ça vient petit à petit.
Parce qu'il a un rôle, il joue, quoi. Sa bonne humeur est importante.
Décrochant d'une vie qui était la sienne, dans laquelle il a eu d'autres activités, il devient promeneur de chiens parce que d'une certaine manière ça lui laisse une liberté.
C'est un vrai métier.
Parce que oui, c'est un vrai métier, mais lui il le fait comme un amateur. Mais ceci étant, le faisant de cette manière-là et comme un amateur, il devient absolument brillant. Et on lui dit, mais il faut continuer de côté. Et puis évidemment, il arrête.
Il va même jusqu'à gagner des concours.
Oui, il gagne un concours. Ouais. Il arrive, il est red-shooté parce qu'on lui a donné du truc pour le doper. Il revient, il est beurré. C'est vachement bien. C'est formidable.
Drôle et triste.
C'est très atypique, quoi. Ça ne ressemblera absolument pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Et en ce qui me concerne, moi, j'espère que ça ne ressemblera pas du tout à ce qu'on m'a vu faire ces derniers temps.
À partir du 22 février au théâtre de l'Atelier, vos oreilles ont sifflé, il est là, quand on vous a annoncé la venue de Pierre Arditi à ce micro.
Oui, et immédiatement, Pierre Arditi, quand j'ai pensé à vous, j'ai pensé à Arnolf dans l'École des femmes. Alors, j'ai pas eu la chance de voir la pièce vraiment à Avignon, c'était en 2001. La mise en scène était Didier Bezas, mais j'ai eu l'occasion de voir des captations, un petit extrait.
Passez là ! Venez là ! Venez vous dire !
mon sang se fige.
C'est donc ainsi qu'absent, vous m'avez obéi, et tous deux de concert, vous m'avez donc trahi.
Hé, ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure.
Quelque chien enrageait la mordue, je m'assure.
Oh, je ne puis parler tant je suis prévenu. Je suffoque et voudrais me pouvoir mettre nu. Vous avez donc, ô canaille maudite, souffert qu'un homme soit venu qui veut prendre la fuite.
Voilà la mise en scène de Didier Bozas.
J'ai même pas reconnu
votre voix.
Oui, je...
C'est vous.
C'est vous. Vous étiez courbe.
Oui. Bah c'est bien. Comme je me vois pas, ça va.
C'est troublant. C'est troublant de s'entendre jouer au théâtre sans se voir.
C'est troublant de s'entendre, d'autant que effectivement ça a dû être pris à Avignon, ça.
Oui.
Et donc avec
l'écho,
la réverb et tout ça, ça oui, c'est bien.
C'était sur la scène du Palais des Papes.
C'était un beau spectacle. Oui.
C'était un très beau spectacle qui a eu une critique dithyrambique. Oui. Vraiment vous installant comme un des Arnolphes qui compte dans l'histoire du théâtre, ça c'est très important. Et Arnolphe, je crois que c'est un rôle que vous avez interprété à vos débuts de comédien, tout jeune.
Oui. J'ai passé une scène d'Arnolphe au cours Tania Balachova il y a très longtemps, vous n'étiez même pas né. Et moi j'avais 17 ans, donc vous voyez, ça doit faire 55 ans. Je trouvais cette scène... déchirante, et je l'ai passé, mais j'avais 17 ans, donc je pouvais pas jouer le personnage. Et Balachova m'a dit, mais c'est bien, vous avez bien fait de passer ça. Alors évidemment, vous le jouez comme un personnage romantique, ce qui n'est pas, mais c'est très intéressant de voir cette version-là. Et 55 ans après, je l'ai joué sans être romantique, et pourtant, il reste surnage quelque chose qui le déchire comme un jeune homme trahi ou trompé par cette jeune fille. Oui, c'est marrant. Ouais.
Et qu'est-ce qui fait grandir un rôle? C'est l'expérience d'homme, entre-temps, c'est la vie.
C'est ouais. Le premier matériau d'un acteur, c'est la vie. Et d'une manière encore plus précise, c'est la sienne. Donc, en bon stanislavskien, je vais chercher à l'intérieur de moi une nourriture qui nourrira cet autre étranger, apparemment, dont j'ignore tout. En réalité, je pense qu'on passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi qu'on met au service de ce qu'on vous demande d'incarner. Alors, le danger, évidemment, c'est de faire du psychodrame, mais quand on est un vrai acteur, à la fois on se sert d'un matériau très personnel et en même temps on s'en dégage pour pouvoir acter théâtralement et donc artistiquement.
Vous n'êtes pas très loin quand même encore de ce jeune homme de 17 ans
Pas très loin, non, effectivement, c'est très 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 près, je suis très très près d'avoir 17 ans, 17 ans et demi.
Non, mais vous savez que vous êtes toujours
à l'intérieur.
Le même. Vous savez que vous êtes toujours le même.
Oui, mais c'est plus douloureux maintenant. C'est ça la différence en réalité. C'est que j'ai peut-être entre 17 et 20 ans à l'intérieur, mais à l'extérieur j'ai les 72 et il y a des jours où c'est pas marrant.
Qu'est-ce qui vous fait envie au théâtre? Quel rôle que vous auriez pu incarner par le passé, que vous pourriez reprendre, si je parle vraiment du répertoire classique?
Oui.
Le Roi Lear.
C'est pas exclu.
Oui.
C'est extraordinaire, le Roi Lear.
Ouais. Mise en scène.
Puntilla et son valet Mati, j'ai joué Mati. Oui. Quand j'étais un peu plus jeune, avec Maréchal qui jouait Puntilla, qui était génial. Mais là, maintenant, j'ai l'âge de jouer Puntilla. Donc ça n'est pas.
Et donc l'envie?
Oui. Mais l'un des grands avantages de ce métier-là, c'est qu'on peut le pratiquer jusqu'à sa propre mort. Il y a pas la retraite pour un acteur, c'est la mort. Ça n'existe pas. Je ne connais pas des collègues à moi qui se soient arrêtés avant que l'heure soit venue, sauf quand ils perdent la mémoire ou quand ils peuvent plus bouger. Ce qui peut arriver quelquefois, mais c'est très très rare. Hein, regardez Galabru, Hirsch. Jean Pia, ils ont 92, Bouquet, ils ont 92, 93, et je ne parle pas de Gisèle Casadesus, qui en a 102. Voilà. Donc il n'est pas question de. C'est pas.
Arrêtez.
Mais non, je fais mienne cette recommandation de Confucius, qui dit choisissez un métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Donc,
parce que la passion aide à souffrir, aide
parce que c'est
à supporter les heures et les heures de travail.
Parce qu'au théâtre, la mort n'existe pas et quand un acteur a l'air de mourir, il se relève et les gens applaudissent.
On poursuit avec un autre son. Quand je pense à vous, je pense aussi à une émission de télé. Fric, crac et gueule de bois. Ah, une émission qui avait pour objectif d'expliquer la crise aux Français. C'était en 2011.
Le monde a changé, vous ne trouvez pas? Moi, j'ai passé mon enfance au 35 rue des Martyrs, à quelques mètres d'ici. Mon père était artiste peintre, et dans cet immeuble du 35 rue des Martyrs, il y avait le monde entier. Il y avait un expert comptable qui s'appelait Louis Pia, il avait épousé une Yougoslave, oui, à l'époque c'était la Yougoslavie. Puis il y avait aussi des frites, des petits bourgeois, très sympathique. Lui, il était chef de rayon dans un grand magasin. Puis il y avait aussi des anciennes prostituées. Elles étaient deux. On les chambrait un peu, les enfants de l'immeuble, mais elles nous aimaient bien, on les aimait beaucoup aussi.
Voilà, c'était... Il y a un marchand de saucissons qui s'appelait Jaco aussi, qui nous amenait du saucisson sec de temps en temps. Je n'ai pas pu citer tout le monde.
C'est une émission donc, sur France 2, une sorte de monument comme ça, comme on dit, qui explique aux Français les conséquences, surtout les origines de la crise, qui fait écho aussi à une émission qu'on a pu voir, c'était en 84, présentée par Yves Montand, c'était Vive la crise,
oui.
Qui avait un peu cette même ambition-là.
Oui, c'était une sorte de...
Qui avait choqué. Non,
oui, ouais. oui.
Et en fait,
mes copains Orsena et Cohen.
Voilà, l'économiste Daniel Cohen et Eric Orsena.
Oui.
La conclusion de Montand à l'époque, c'était de dire que la situation est difficile, mais si les Français décident de prendre les choses en main, ils peuvent changer les choses. Et c'est là que vous opérez une distinction avec le diagnostic de Montand.
On est quand même dans une période. Ça va être étrange ce que je vais dire parce que c'est un peu réac au fond, mais. Mais je crois que ça ne l'est pas. Maintenant, quand quelqu'un se casse un ongle, on met en place une cellule d'aide psychologique.
Psychologique.
Il y a là-dedans quelque chose qui, pour un homme de mon âge, puisque maintenant je suis bien obligé de parler comme ça, je suis un homme de mon âge, m'effare. Alors je suis un enfant de l'après-guerre, je ne suis pas né pendant la guerre. Mais quand même, je me dis qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut apprendre à...
À supporter
sinon à supporter, à combattre, et à pas se dire, ah ben non, on est foutu, ça y est, il y a une sorte de défaitisme ambiant qui est insupportable quand on vit dans un pays qui est aussi extraordinaire que la France. C'est un pays unique, alors on l'attaque beaucoup parce qu'il est iconoclaste, ce pays. Il ne ressemble à aucun autre. La déclaration des droits de l'homme, ça n'a eu lieu nulle part. C'est eux, et donc un peu nous, qui avons fait tout ça. Donc, il faut jamais oublier ça. Donc, je veux dire par là que la France, elle a des atouts énormes. Alors après, on peut discuter de tout. Aujourd'hui, par exemple, ce qui me choque le plus, avec tout ce qu'on traverse, là, qui est bordélique, il faut que ça s'arrête tout ça, parce que c'est terrible pour la démocratie. Mais donc, je veux dire, ce qui me choque le plus, moi, en ce moment, c'est que les gens, aujourd'hui, ne gagnent plus leur vie, au sens pur du terme. Pur du terme. Des gens qui, aujourd'hui, gagnent entre 1200 et 1700 euros par mois, 1700 euros étant le salaire médian de la population.
Non, c'est 2002.
Le salaire moyen, c'est
2002. Non, je vous assure, mais c'est pas.
Enfin, c'est pas beaucoup de toute façon. Avec ça, quand je parlais des gens de la rue des Martyrs, il y a des tas de gens qui gagnaient très peu leur vie. Mais ils pouvaient se loger, manger normalement et envoyer les enfants faire des études en se disant que leur avenir serait meilleur que le leur. Aujourd'hui,
c'est plus le cas.
C'est faux.
Ouais.
Ils ne peuvent plus manger normalement, ils ne peuvent pas se loger normalement, et quand ils envoient leurs gosses, ils ne savent pas du tout de quoi leur avenir sera fait, parce que même quand ils ont fait des études supérieures, ils ne trouvent pas de boulot. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras,
mais c'est vrai qu'à un moment donné,
ce qu'on attend de la politique, c'est qu'elle règle ces problèmes-là. C'est pour ça que je...
Mais où c'est réac, vous dites, c'est un peu réac ce que je vais dire.
Mais c'est réac parce que le côté, faut se battre, mais quand on ne peut pas qu'on n'a rien, on baisse les... parce qu'on est... Bon.
Non, mais
donc, il faut taper du poing sur la table, il faut...
Pierre Arditi, la volonté personnelle ne suffit pas, vraisemblablement. Elle fait partie de la réponse.
Non, mais la volonté personnelle...
Et ensuite, vous évoquez la sphère politique qui doit aussi, à un moment, prendre ses responsabilités.
En haut, on ne peut plus, et qu'en bas, on ne veut plus, c'est la porte ouverte à tous les extrémismes. Voilà. Et c'est peut-être, et malheureusement, est-ce que je ne souhaite pas quelque chose qui est en train de nous tomber sur la gueule. Alors ça sera sans doute une bonne, c'est-à-dire une mauvaise leçon, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là.
Eh ben, ça calme.
Non, mais c'est important.
Dit que je pouvais tenir le crachoir. Mais si vous voulez,
vous pouvez
aller boire un café, puis je vais continuer de parler tout seul à vos auditeurs.
En tout cas, fric, crac et gueule de bois, c'était très bien. Ouais. On peut encore visionner des extraits d'émissions en ligne.
Oui, en plus, ça avait fait une audience assez tout à fait honorable. Presque 3 millions, ce qui n'est pas
possible. Ça vaut vraiment le coup.
Pour ajouter quelque chose, on peut être un peu plus optimiste que vous.
Mais je ne suis pas pessimiste.
Ça ressemblait un peu quand même.
Non, je suis... battant. Non, je suis pas pessimiste. D'accord. Non.
Pas résigné.
Je veux dire que là, quand on parle du fameux séisme là en ce moment qui tape un peu de tous les côtés.
De l'affaire Fillon.
Bon, oui, mais pas seulement.
Ouais.
Ça raconte des tas de choses. Tout ça est à la fois terrifiant, désespérant, désolant, et en même temps cette espèce d'alali, ça me rend très très mal à l'aise. Ça n'est pas mon bord, hein, mais cette alali, quoi, c'est tout d'un coup, ça pue le sang pourri, donc on se jette dessus pour le... Je peux pas vous dire, ça me rend affreusement mal à l'aise.
Il y a 20 ans, on l'aurait traité autrement, cette affaire? Il y a 20 ans, vous pensez qu'on l'aurait traité autrement, médiatiquement, par exemple?
Bah, probablement parce que les choses vont moins vite et qu'on sait les choses moins vite. Vous savez, c'est comme les... pas pourquoi je prends cette image, parce qu'elle me revient à l'esprit. C'est comme les voyous. Quand j'étais plus jeune et que j'allais me balader sur les grands boulevards, mes petites amies, de temps en temps, il y avait ce qu'on appelait les blousons noirs. De temps en temps, on se les coltait. Et puis, c'est pas commode, parce qu'ils étaient Mazdar, puis nous, on était un peu moins Mazdar. Et alors, il disait, bah alors, tu dis pas bonjour? Bonjour, pourquoi tu me dis bonjour comme ça? Ça n'allait jamais. Bah, bonjour, pourquoi tu me dis bonjour comme ça? Bah, je sais pas. Alors, tu dis bonjour avec un sourire, bonjour, bonjour, pourquoi tu souris? Bon, d'accord, ok. Donc, à un moment donné, il voulait la castagne.
Voilà,
donc, alors, ça glissait comme ça. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire que maintenant, quoi qu'ils disent, ou quoi qu'il se passe, ou quoi qu'ils ne disent pas, de toute façon, c'est contre. Bon, je dis pas que c'est tout ça est cautionnable et qu'après tout c'est tout à fait normal et qu'il faudrait passer là-dessus.
Ah, si je peux me permettre, Pierre, on va pas refaire l'affaire. Mais
non, on va pas refaire l'affaire.
De faire une défense en donnant des arguments et chaque argument est une nouvelle affaire, c'est une extrêmement maladroit. Je trouve que la communication est mauvaise.
Oui.
Mais ce qui est plus grave, et je suis d'accord avec vous, c'est que ça donne une très mauvaise image de la politique en général.
D'une manière générale, c'est-à-dire
que ça ne fait que servir la soupe.
Voilà,
ça ne fait que servir la soupe.
On y est, donc ça sert à d'autres gens
dont on ne veut pas.
Dont je personnellement je n'ai pas envie de voir arriver au pouvoir.
Mm-hmm. À partir du 22 février, le cas Snejder.
Il s'est crotté quand même une fois. Mais c'est bien, si je suis content parce que moi ça fait un mois que chaque fois que je prononce ça.
Oui, dans la pièce, Paul, son nom se fait écorché.
Oui, par le
nom est écorché.
Par le propriétaire de Dog Walker.
Oui, par Caristeas,
à plusieurs reprises.
Le Dog Walker,
le patron.
Il finit par l'appeler Paul. C'est aussi simple.
Autre nom que je vais écorcher, celui de Guillermo Gouy. Allez,
courage. Qui est le seul mec qui tousse comme un mec qui fume 3 paquets de cigarettes par jour et qui ne fume pas.
Il se drogue.
Merci. Il a qui me donne un verre d'eau. Ouais. Bonjour les amis, vous allez bien?
Mais très bien, mieux que toi.
Oui, ça va.
Alors, après le triomphe binational de mes réflexions sur l'alcoolisme, la direction de France Inter m'a demandé de continuer à traiter des sujets qui touchent directement les membres de l'équipe. c'est pourquoi cette semaine, dans mon billet rémunéré, et pour coller à l'actu de la bande originale, je vais vous parler de l'imminence de la mort. Pour être précis, en plein forum européen de la bioéthique à Strasbourg, je vais vous parler de vie prolongée et de transhumanisme. Ah, Guillermo, puisque dans la conduite de l'émission, il est justement prévu que tu parles ces 3 prochaines minutes. Douche-nous l'esprit de ton savoir hirsute, petit bastard, donc entendu par transhumanisme. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la vieillesse est un naufrage pour nos corps imparfaits. Bête exemple, avant, dans la rue, moi, quand je devais fort, fort pisser, j'arrivais à me retenir. Bon, bah, maintenant, j'apprends juste à avoir honte en public. Donc, voilà, ça vient, la dignité, on s'adapte. Mais, appliqué à la santé, les technologies modernes peuvent changer la donne. Regardez le maréchal Ganache, chez qui on a implanté une prostate révolutionnaire en plastique dur et en croûte de lèpre, le tout relié à son Apple Watch.
Affirmatif.
Je crois pouvoir dire.
Et ça marche, ça marche très, très bien.
On est bien d'accord? Eh bien. Le courant transhumaniste part du principe qu'à l'instar de l'homosexualité, et de la calvitie, le vieillissement est une maladie comme une autre, et qu'en changeant la machinerie du corps à coup de nanotechnologie et de nouveaux petits gènes bien rigolos, l'homme pourrait vivre beaucoup plus longtemps. Alors naturellement, c'est pas pour tout de suite, les scientifiques attendent que Daniel Morin-Clams, avant d'entamer des recherches sérieuses sur l'immortalité humaine, ça serait gâché sinon. Mais bon, c'est vrai, si je me fie au teint cireux de l'intéressé et au jaune pâle qui brille dans ses yeux, c'est une question de trimestre. Ensuite, c'est promis, on se lance. Et c'est pour de vrai, puisque à la pointe de cette quête de longévité terrestre, on retrouve déjà les plus hautes autorités de Google, Facebook et PayPal, notamment. Ce qui est logique quand t'es à la tête.
Hasard, ouais.
Ce qui est logique quand t'es à la tête de Google et que pour t'endormir en cas d'insomnie, t'es obligé de compter tes piscines. T'as pas spécialement envie que ta vie s'arrête tout de suite, forcément, c'est gâché. Sinon, là aussi, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Steve Jobs. Steve Jobs, il a mangé des pousses de tofu pendant 50 piges, ça l'a pas empêché de claquer avant Bernard Lavilliers, qui, je le rappelle, se nourrit exclusivement de burritos, hein, comme quoi. Alors le risque, évidemment, c'est justement que les inégalités sociales...
C'est consternant.
Le risque, évidemment,
absolument consternant.
C'est que les inégalités sociales se perpétuent dans l'humanité augmentée. Dans 30 ans, vraisemblablement, Nagui aura la chance de s'acheter un exosquelette, alors que moi, au mieux, je pourrais m'offrir un sgeg en fibre optique, sans choix de couleur, en plus, avec rotativité limitée, je vois le coup arriver. Mais à cette nuance près, les utopistes de chez les chercheurs anticipent que le progrès en matière de nanotechnologie, de connectique ou de séquençage de l'ADN pourrait permettre à l'humain augmenté de vivre des centaines d'années, voire 1000 ans. Et vous allez me dire, oui, mais enfin bon, il y a déjà un prototype pour ce projet, et dans Vivement Dimanche, il a quand même l'air au bout du rouleau. Alors, ok, mais on est au début du processus. Et puis, admettez que ce serait dingue si l'espérance de vie augmentait à 1000 ans. 1000 ans! La droite pourrait passer la retraite à 860 ans. Ouais, François Fillon, ça lui mettrait un peu de baume dans l'interface, le pauvre, non ? Pourrait revenir frais comme un gardon pour les présidentielles de 2218. Désolé, monsieur Arditi, mais voilà. Si on vivait 1000 ans, le slogan de campagne serait différent. Le changement, on a le temps. La France n'est pas pressée. La gauche, si on essayait 2 siècles. Si on vivait 1000 ans, on ferait des breaks de 80 ans avec nos meufs. Pour prendre un peu de recul, ce serait génial. Si on vivait 1000 ans, on pourrait enfin savoir qui va gagner le conflit israélo-palestinien. Ah non, peut-être pas. Là, il faudrait un rap de 2000 ans. Mais si on vivait 1000 ans, on pourrait enfin lire tous les livres dont parle Leïla Kadour Boudadi dans cette émission. Et on pourrait dire, ouais, moi aussi, je l'ai lu. Je suis à fond dans les littératures moldavo-turkmènes de cette décennie. Et ça en serait fini de se faire humilier chaque semaine. Mais c'est vrai, au moment de sa mort, chacun de nous aurait besoin de beaucoup plus de vie encore pour en terminer avec la vie. C'est pas de moi. Je sais que ça vous a jamais traversé l'esprit, mais c'est pas de moi, c'est de Bloch. Ernst, pas Laurence.
Ah, pas Laurence. Fayot.
Bonne émission.
On rappelle que Laurence Bloch est notre directrice. Bravo, Guillaume.
Bravo, Guillaume.
Voilà. À propos de tousser, d'ailleurs, j'entends les miasmes que nous rejette dans ce studio Guillermo Guiz. Est-ce que vous avez une hygiène de vie particulière, Pierre Arditi, avant de monter sur scène?
J'ai cru qu'il allait dire vous avez de l'hygiène.
Alors, une hygiène de vie en vous disant je vais être sur scène, il faut que je sois en forme, il faut que je fasse attention de ne pas attraper tout ce qui circule en ce moment, les grippes et tout ça. Oui, vous êtes vacciné et tout ça?
Non, je suis pas vacciné, j'ai tort d'ailleurs. Ben non, je l'ai plus ou moins eu.
Non, mais c'est une question qu'on peut se poser quand on est tous les soirs sur scène.
J'ai une hygiène de vie, oui, mais elle ne concerne pas la maladie. Elle concerne uniquement le comment dire, ce qui me prépare à ce qui m'attend. Voilà. Et alors, ce qu'on peut appeler la concentration d'une certaine manière. Mais la concentration, ça n'est que la disponibilité. Si vous arrivez dans votre loge, mais je dis ça pour moi, parce que je connais des acteurs et non des moindres qui arrivent dans leur loge à 2 heures d'après-midi et qui se préparent, qui se mettent, mon ami et héros de mon enfance, Robert Hirsch, lui, il arrive au théâtre à 2 heures d'après-midi. Parce que
pour 21h.
Oui, parce qu'il se met en peignoir, il se prépare, il est là, il est dans sa maison. Le théâtre, c'est sa maison. Moi aussi, d'ailleurs, c'est ma maison. Mais arrivé 4 heures avant dans ma loge, brûlé de l'encens, à me dire qu'à un moment donné, il faut absolument que j'arrive à correctement jouer. Quand je dois rentrer en scène, je me suis tellement vidé dans la loge que j'ai plus rien à faire en scène parce que c'est fini. Ça me sert strictement à rien. Donc, encore une fois, la concentration.
Alors, quel est votre rythme, oui?
Mais c'est, j'arrive à une heure raisonnable quand je tourne pas dans la journée. Et puis je me balade, je fais un café, je m'habille en plusieurs fois. Je rêve, il y a rien de systématique.
Pas de rituel comme ça.
Il y a pas un vrai. Je flâne en ne flânant pas, quoi. C'est-à-dire que je me prépare à cette histoire.
Vous ne relisez pas le texte, par exemple.
Non, j'en suis pas là.
Vous le tenez.
En principe. Ouais. Puis si je le tiens pas, tant pis, on verra bien ce qui se passera. Non.
Et vous pouvez lire autre chose, par exemple?
Non.
Il faut rester dans...
Non, je ne peux pas aller au cinéma avant de jouer.
Et d'accord.
Voilà, ça, je ne peux pas faire. Même à 2 heures d'après-midi, ouais. Ça m'encombre. Donc ouais. Ça, je ne peux pas. Non, je ne peux pas me concentrer sur autre chose que cette aventure dont je suis censé tout ignorer et que je connais par cœur. Voilà, donc... c'est ça mon hygiène. Après, bon, l'hygiène de vie, je vais pas bouffer 50 kilos de loukoum et trucs comme ça avant de jouer parce que
non, mais vous
arrivez de picoler un peu.
Vous ne mangez pas avant de jouer.
Avant de jouer, non. Non, parce que j'ai besoin d'être
léger,
à sec. Oui.
D'accord.
Et vous dormez toujours aussi peu?
C'est pas tout à fait pareil. Maintenant, ça a changé avec l'âge. C'est-à-dire que je peux m'endormir plus tôt, mais je me réveille aussi vite. Et donc après, l'heure à laquelle j'aurai envie de dormir, c'est l'heure à laquelle il faut que je me lève, alors je me lève.
Mais vous arrêtez pas de dire avec l'âge, à l'âge que j'ai, l'âge. Oui, l'âge. Non, mais je vous trouve en pleine forme en même temps.
Pourquoi, pourquoi je parle, oui.
Quoi? Mais si.
Mais oui, mais...
Je vous ai vu arriver en courant.
Pendant très longtemps, oui. Et j'ai imaginé ma vie comme une voie de chemin de fer sur un terrain plat et dont la voie se confond avec la ligne d'horizon et un arbre becquetien mort sur le côté droit. Et j'ai regardé ça comme ça dans mes rêves, ça venait assez régulièrement. Et puis un jour, au bout de la ligne d'horizon, j'ai vu un point noir. Et puis le temps a passé, et maintenant, le point noir, je sais ce que c'est. C'est un butoir. Alors je ne peux pas le toucher encore, hein, mais je sais que la voie s'arrête.
Ça pourrait être un tunnel avec un passage aussi.
C'est comme ça, la voie s'arrête. Donc je ne peux plus regarder la vie de la même manière que je la regardais il y a 30 ans ou 40 ans. D'abord parce que je peux plus faire les mêmes choses physiquement, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Même si on fait gaffe, c'est plus difficile. Et ensuite, parce que je sais que ce qui me reste à vivre, contrairement à ce que dit l'horrible phrase, ce n'est pas ce que j'ai vécu, mais ce qui me reste à vivre, c'est ce que j'ai encore à vivre. Simplement, c'est plus court. Et donc, je le sais. Donc, j'essaie d'en faire encore plus dans la journée pour me dire que je vis deux ou trois journées de ma vie en une seule.
On est totalement dans l'esprit de la pièce aussi, là, oui, dans tout ce que vous dites.
Oui,
hein.
oui, bien sûr. Oui.
Ce rapport à la mort, ce rapport au temps qui passe, ce rapport au...
Bah, c'est pas très original, honnêtement, hein, mais moi qui viens de dire la que perception... la culture de la plainte m'énervait.
Ça nous a fait beaucoup rire quand vous avez dit ça.
Oui, je me plains pas, mais j'en souffre. Voilà. Avec le temps, on souffre beaucoup plus, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que quand on est... que quand on est un petit peu en deçà, voilà, c'est, tout fait plus mal.
On a demandé au docteur Christophe Auré
de m'analyser. Je le comprends.
Faire un petit bilan.
Il paraît qu'il y a une cabidole qui m'attend de l'autre côté de la.
Il est psychiatre et psychothérapeute.
Oui, j'ai parlé avec lui.
Et il est spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie, c'est-à-dire deuil, maladie grave, fin de vie, séquelles post-traumatiques.
Ça va c'est pas plombant.
Il y a aussi les séparations, les divorces.
Hein. Oui, tout ça.
En fait, vous êtes spécialisé dans les fins.
Dans les fins, oui.
Fin d'histoire d'amour,
dans le deuil, dans tout ce qui fait mal dans une vie, alors qu'on n'est pas forcément, on n'a pas forcément de problème psychologique particulier, mais il y a un événement de vie, parfois brutal. Je m'occupe beaucoup de parents qui perdent un enfant, suicide ou mort brutale de petits enfants.
Ce qui n'est pas dans l'ordre des choses de la nature.
Exactement. Et donc, il y a comment on se reconstruit après une telle violence.
C'est François Morel qui nous disait lorsqu'on est un enfant et qu'on perd ses parents, on est orphelin. Lorsqu'on est un parent et qu'on perd son enfant, il n'y a pas de mot.
Le mot, un mot qui n'est pas terrible, c'est désenfanté, c'est pas terrible.
Non.
C'est
quoi
désenfanté, c'est un peu horrible, hein, c'est pas
mais terrible. La phrase de dire il n'y a pas de mot pour qualifier ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'entendre.
Oui, c'est complètement indicible.
Vous, votre travail est d'accompagner, d'expliquer aux personnes.
Enfin, d'expliquer, d'accompagner le. On faut voir le processus de deuil comme un processus de cicatrisation. Quand on se blesse physiquement, on a une intelligence, notre corps, qui fait que ça se referme. Il y aura toujours une cicatrice. Hein. C'est pas du tout, ça va pas oublier la blessure initiale. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, il y a aussi une blessure psychique et il y a aussi un mécanisme intelligent en nous, nécessaire, de processus de cicatrisation psychique et on appelle ça le processus de deuil. Et pour le personnage de la pièce, lui, il y a le processus de deuil, il perd sa fille, mais aussi les circonstances. Et c'est les circonstances souvent qui rendent le deuil très très compliqué, voire parfois impossible.
Oui, parce qu'il a presque un sentiment d'injustice, lui, d'être le seul survivant
de l'accident
d'ascenseur. D'ailleurs, les survivants ont aussi des problèmes psychologiques à culpabiliser d'être
exactement.
Le survivant.
Et des séquelles post-traumatiques. Et l'enjeu de l'accompagnement du deuil, c'est s'assurer que le processus de cicatrisation se passe le mieux possible, mais surtout, c'est travailler beaucoup de séquelles post-traumatiques qui viennent empêcher le déroulement naturel du deuil. Avec des images invasives, des obsessions comme le personnage de la pièce, pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé. Et tant qu'on n'a pas appréhendé véritablement ce qui s'est passé, pouvoir donner un petit peu de sens à la mort de mon enfant, de mon compagnon, de mon parent, eh bien ça rend difficile le fait de cheminer le plus harmonieusement possible dans le deuil.
Donc c'est ce qu'on appelle le travail du deuil, et de décortiquer, de comprendre, d'analyser.
Exactement. Et en fait, c'est en lisant la pièce, c'est pas du tout fou ce qu'il est en train de faire, cet homme-là.
Il cherche à comprendre.
Et je travaille beaucoup avec des parents qui ont perdu un enfant par suicide, mais il y a pendant des années la recherche du pourquoi, et on épluche les mails, les SMS, on va voir les copains, les copines.
Culpabilise.
Et il y a la culpabilité, et il y a vraiment ce travail de recherche de fond, c'est une partie considérable du vécu du deuil qui après, si on arrive à apaiser un petit peu cette charge du pourquoi, de l'incompréhension, eh bien on se rend compte que le processus de deuil avance beaucoup plus sereinement dans la mesure où il peut être serein.
Est-ce que c'est pas aussi le problème de notre culture judéo-chrétienne, latine, parce que la mort, l'appréhension de la mort, dont on ne parle pas beaucoup, d'ailleurs, ça fait partie des choses, voilà, que l'on met de côté en se disant ça arrivera, mais je veux pas en parler. Alors qu'il y a des pays, il y a des cultures, il y a des religions qui l'appréhendent d'une manière totalement différente,
beaucoup plus intégrée. Mais dans notre monde occidental, ça ne devrait pas être, alors que quand on met au monde son petit, il va y avoir une fin à cette vie. Alors, on peut vraiment choisir d'occulter cette réalité-là, mais il y a vraiment, je travaille beaucoup en soins palliatifs, l'accompagnement des personnes en fin de vie, et on se rend compte que, à la lumière de la fin de vie, de la mort à venir, il y a une relecture de son existence qui fait que parfois on est dans des regrets gigantesques. J'ai pas assez aimé, j'ai trop travaillé, j'ai pas donné assez la priorité à mon développement personnel, à la qualité des liens avec les gens que j'aimais. Et en fait, réintroduire l'idée de l'idée du butoir, justement, dont vous parliez à la fin mais alors qu'on va très très bien, c'est véritablement une richesse énorme. Et c'est pas une tarte à la crème de le dire, c'est vraiment au quotidien une vraie richesse de se dire cette vie est courte, donc elle est précieuse, et comment à partir de maintenant jusqu'au moment où je vais mourir, qualitativement, qu'est-ce que je veux en mettre?
C'est ce qu'a dit Pierre Arditi en disant vivre plusieurs journées en une.
Exactement, exactement. Ouais, c'est vraiment.
Pas obligé d'ailleurs de faire comme ça non plus. Hein.
Non, mais moi, une fois que vous êtes d'accord avec un psychothérapeute, vous êtes d'accord.
Non, mais moi, si vous voulez, alors cette histoire de deuil que je comprends très bien. Il y a une chose parce que c'est bien de dire ça, qui m'énerve, mais je devrais pas dire que ça m'énerve parce que après tout, on fait comme on peut avec la mort. Quand j'entends dire « je ne peux pas commencer mon deuil », ça, c'est une phrase que je ne peux pas entendre, je l'entends. Mais à partir du moment, si par exemple dans un accident d'avion, ce qui est souvent terrible parce qu'il n'y a pas d'explication, il y en a quelques-uns comme ça, où tout d'un coup on ne sait pas pourquoi l'avion a disparu, il n'y en a jamais la réponse, c'est comme ça. Donc on peut entendre quelquefois des gens qui disent « je ne peux pas commencer mon deuil ». Mais le deuil commence à partir du moment où l'être cher a disparu.
Exactement.
Il ne peut pas, c'est pas parce qu'on va expliquer comment l'avion est tombé que ça va changer quoi que ce soit à la disparition de l'être aimé. Et c'est là, si vous voulez, où moi, quand mon père et ma mère, qui ont été deux phares de mon existence et qui ont fabriqué le bonhomme que je suis devenu, bon ou mauvais, il est quand même à prendre dans l'état où il est, mais ça m'a dévasté. Mais le deuil, il a été fait dans la seconde même où le dernier souffle a été constaté, chez ma mère d'abord et chez mon père ensuite.
Mais est-ce que c'est pas ça, là, une capacité individuelle?
Mais cette capacité, c'est qu'à un moment donné, ils ont l'air d'être morts, mais ils ne le sont pas.
Ils sont toujours là avec vous.
Je leur parle tous les jours.
Et souvent, deuil, c'est associé à un mot pénible, c'est travail. Travail de deuil, l'expression, elle est affreuse.
Travail de deuil.
Travail de deuil, dans le sens.
Il n'y a pas de travail. Mon père et ma mère, ils sont dans ma poche toute la journée.
Le travail étant une torture. Hein.
Voilà, pour créer les conditions les plus favorables
où je fais quoi que ce soit.
Oui. Sans eux.
Je ne déteste pas, il est là.
D'ailleurs, quand je dois gratter le bouton pour que l'âme se déchire, je les ai enterrés des milliers de fois, même si ce n'est pas bien d'avouer des choses comme ça, mais c'est normal, bien sûr.
Ça, c'est le travail d'acteur, ça, c'est d'aller chercher...
Oui, bah, c'est d'aller chercher cette douleur qui a qu'à appuyer sur le bouton, puis ça sort tout seul. Hein.
Est-ce qu'il y a des, pardon pour cette question, mais des deuils qui se gèrent mieux que d'autres? Tout à l'heure, je disais que c'est un sentiment d'injustice, d'incompréhension totale quand un enfant part avant ses parents, mais quand ce sont des grands-parents qui partent, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses, de la nature.
Oui, c'est peut-être, de précaution plus facile, mais vraiment ce qui rend vraiment le deuil, le vécu du deuil plus douloureux, c'est vraiment, par exemple, ne pas pouvoir dire au revoir à la personne. Il y a un accident, un AVC, ou vraiment un suicide, quelque chose de traumatique qui survient.
Ou de s'acquitter sur des paroles regrettables.
Ou alors, il y a un autre, exactement, ce cas de figure-là, où on est submergé de culpabilité, parce que juste avant le décès, on a dit une parole malheureuse qu'on pensait pas, mais c'est sorti sous le coup de la colère. Et ça, ce sont des circonstances qui font que, le deuil difficile, toutes les circonstances en fait traumatiques autour de soit l'accompagnement de la fin de vie, soit autour du décès, ça va vraiment peser et rendre compliqué la fin de vie.
Alors vous signez chez Albin Michel, pardon Léla.
Je me demandais, est-ce qu'on peut préparer le travail de deuil avant la disparition de l'être cher?
Parce que sincèrement, je crois que c'est...
Non, mais attendez, non, je finis.
L'enterrer vivant, tu veux dire. Quel programme?
Non, mais alors, je vais vous dire un truc très simple, par exemple.
C'est pas pour vous qu'elle dit ça, Pierre, vous inquiétez pas.
J'imagine que quand vous étiez plus jeune, enfin en tout cas moi personnellement, aujourd'hui, une chose que je redoute dans ma vie, c'est la disparition de mes parents.
Ouais.
Eh bien, écoute, mais c'est normal. On sait que
et je me dis que c'est quelque chose qui me laissera sans doute pas. Enfin, ça va être très compliqué.
Et on sait que l'intensité du vécu du deuil, il est très directement lié à l'intensité du lien avec la personne. Donc, si on veut le mieux possible cheminer dans son deuil, c'est comment je construis, alors que la personne est toujours là, présente, vivante, comment je construis un lien d'amour de qualité.
Et ne rien regretter, comme vous le disiez, voilà, c'est-à-dire ne jamais se quitter sur un mot que l'on peut regretter.
Parce que des fois, on dit, je me remettrai plus tard, telle parole d'amour, etc.
Et ne pas hésiter à dire je t'aime aussi, peut-être.
À un moment donné, c'est trop tard. Exactement.
Et parler d'amour.
Mais c'est vraiment ça, hein, c'est préparer le vécu de deuil après la mort de la personne, c'est vraiment lui dire son amour et construire quelque chose de très très fort de notre vivant.
Et comment vous arrivez à garder le moral avec ces situations toute la journée, parce que c'est
quand même...
Il se drogue.
Écoute, on peut pas le voir parce que c'est pas filmé, mais si on le regardait, c'était effrayant.
Effrayant. Ça va, mais je trouve très calme et souriant,
contrairement. Heureusement qu'il est comme ça, si on le prend.
On vient de dire qu'il fallait échanger des paroles d'amour.
D'aider et d'accompagner les gens, ça nourrit énormément. Quand il y a des gens dans la détresse énorme et que vous savez qu'en cheminant avec eux au fil des mois et des années, qu'il y a quelque chose de bon et d'apaisant qui va émerger de ça, ça écrase pas le thérapeute. Ça, au contraire, ça donne une belle énergie.
Vous signez accompagner un proche en fin de vie, savoir l'écouter, le comprendre, communiquer avec les médecins. C'est chez Albin Michel. Non, mais c'est pas désolé. Au contraire, moi j'ai envie de vous dire merci parce que on ne sait pas comment faire. Alors il y a peut-être pas de recette magique.
Il y a des choses à savoir.
Je pense que simplement se dire, moi c'était Omar Sharif un jour qui dans une interview m'avait dit, parce que je trouvais toujours avec un sourire, une légèreté, un rapport très oriental comme ça à la vie. Et il me disait, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Oui, donc je ne veux jamais quitter quelqu'un sans lui avoir dit que je l'aimais. Jamais quitter quelqu'un sans qu'il y ait un sourire, même si deux secondes avant on n'était pas d'accord. Ouais. Mais il vivait chaque jour comme si c'était le dernier. Pour n'avoir aucun regret, justement.
On le sait ça, mais on le fait pas. C'est fou, hein. On sait que c'est important, mais dans le concept. Mais on ne décline pas dans notre vie. C'est fou,
pas,
hein.
Oui, pas forcément tous les jours. C'est Pascal Jardin qui est un très bel auteur, le père d'Alexandre, qui est un très bel écrivain, un scénariste aussi, qui disait qu'il fallait toujours voir ses amis comme si c'était la dernière fois qu'on les voyait. Parce que sinon, c'est pas précieux. Un ami, c'est précieux. Donc c'est pas un objet.
Je rajouterais à la recette de tout faire pour que chaque jour soit l'équivalent de trois jours. Je trouve que là,
ça, faut avoir envie de vivre comme ça.
Hein. Y compris le plaisir de ne rien faire, de glander, de laisser traîner quelque chose.
Mais
ça fait partie.
Ça m'arrive. Ça fait partie du plaisir. Qu'on le...
Merci, docteur Christophe Auré, d'être venu à ce micro. On voit bien, Daniel, qu'aussi dur que ce soit, il faut être prêt à faire le deuil et même c'est même essentiel. Sinon, on s'en sort pas.
Stop. In the name of love, stop, Monsieur Guy. Au nom de Dieu, j'en ai connu des champions, des grands, des petits, des gros, des maigres, des qui sentent pas bon, mais des comme vous, Monsieur Guy, jamais. Vous êtes le top du top. Merci d'être vous. Hein. Merci d'être vous, ce sprinteur de la performance intellectuelle.
Qu'est-ce que j'ai encore fait ?
Même si aujourd'hui, intellectuellement, votre célérité est plus proche de celle de l'escargot asthmatique que de celle du guépard. Car non, Monsieur Guy, non, il y a des deuils qu'il ne faut pas faire. Oui, parfois, il faut savoir rester dans le déni. Petite démonstration. Chaque jour, je fais des chroniques dans la bande originale. Chaque jour, vous êtes subjugué par mon talent. Et vous aimeriez me remercier pour ce souffle chaud de bonheur que j'apporte sur vos existences aussi médiocres que frileuses. Eh bien, chaque matin, pour me motiver, je me dis que j'écris pour mon patron de toujours, mon idole, l'homme qui pour moi représente à jamais cette émission, André Manoukian, resté aux commandes 6 mois. Ouais. Mais jamais oublié. Car oui, au fond de mon cœur, c'est toujours d'aider le taulier originel d'Anne Forever du 11h30. Je ne pourrai jamais faire le deuil de mon Dédé qu'à l'époque on surnommait amicalement le Émile Louis d'Arménie. Et je ne suis pas le seul à avoir du mal avec le deuil. C'est votre cas, je crois, maréchal.
Affirmatif.
À quel sujet ?
C'est à propos de la maréchale.
Ah oui, maréchale.
Je n'ai jamais pu faire mon deuil du départ de mon épouse Edmond.
Vous la pleurez toujours ?
Oui, mais moins.
Comment ça ?
Bah, j'ai gardé son corps à la maison.
Oh non !
Mais quoi, depuis combien de temps ?
Depuis 1954.
Oh ! Mais le corps a dû souffrir terriblement.
Ah, non, pas tant que ça. Tous les ans, je la remplis de naphtaline pour pas qu'elle se fasse bouffer par les mythes. Et à la place des yeux, j'ai mis deux cochonnets.
Et ça vous aide ?
Affirmatif. Le soir, je lui parle. Et chaque année, pour la Saint-Valentin, je lui fais l'amour.
Oh non !
Maréchal, Je ne savais pas, mais bon, il y a un grand sentiment entre elle qui sommeille dans ce corps de légionnaire sans pitié.
Ah, c'est pas faux, j'ai un côté poète.
Vous voyez, monsieur Guy, voilà, il n'est pas absolument nécessaire de faire un deuil, il y a toujours des solutions alternatives. Une fois encore, désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi. Merci d'être pour un réagir.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Le cas Snejder, ça se joue à partir du 22 au théâtre de l'Atelier. Je sais que vous êtes là avec le... je sens le poing rouge.
J'ai mis un mois, moi, pour arriver à le prononcer. Snejder.
La vraie prononciation, c'est Snyder. Je pense. Hein.
Ah, parce que alors là c'est côté flamand.
Voilà, c'est un nom néerlandais, typiquement, je pense.
Redis-le.
Snyder.
Snyder. Donc on prononce pas le J en fait.
Mais parce que tu es flamand.
Je suis belge.
Oui, oui.
Et donc dans notre noble patrie, on parle cette
aussi,
langue.
Je suis fils de belge.
C'est vrai?
Oui, ma mère était belge. Mais fantastique. D'où alors tu es...
On va vous laisser parce que là on est un peu à l'antenne, mais on va vous laisser parler.
C'est sympa.
Voici.
Il est Molenbeek.
On parle de mort. Voici des zombies. It's the time of the season. Love runs high in this time. Give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken any time
to show
you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love.
Les zombies, c'est la bande originale sur Inter, et c'est le cas. Alors maintenant, tu nous dis, Guillaume Oubis, qu'il faut prononcer Snyder.
Snyder.
Le cas Snyder.
Snyder.
Pour apprendre à faire le deuil de l'orthophonie. C'est tout.
En tout cas, cette très bonne pièce avec ce très bon texte et le néanmoins bon Pierre Arditi se jouera à partir du 22 néanmoins théâtre de la télé.
Ça fout la trouille. Hein. Ça fout la trouille. On se dit, putain, pourvu que je ne finisse pas comme ça.
Alors, à partir du 22 février, il est notre invité. S'il tient jusqu'à là, jusqu'à midi et demi. la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali. Bonjour. Guillermo Bouiz. Albert Agoul. Daniel Morin.
Daniel.
Et Charles Lac nous accompagne au clavier. Et notre invité, Pierre Arditi.
Parler mieux, mais pas plus vite.
Luca Snyder, donc, cette pièce que vous interprétez aux côtés de Charles-Roger Bourg, Sylvie Debrun, Morgane Fourcault, Thierry Gibault et un chien qui sera toujours le même tous les soirs parce que j'ai pas beaucoup vu de chiens au théâtre.
Donc, c'est très rare. Il n'y en a pas beaucoup.
Il y en avait un dans Tailleur pour Dames.
Oui, qui s'appelait Galipette. Voilà. Et en hommage à Galipo, qui était l'acteur
fétiche de Fédo.
Oui. Voilà. Et heureusement, il y a des gens qui ont un peu de culture ici.
Alors, bon. C'est notre caution. Voilà.
Et Galipette, oui, mais dans un des Marivaux, les Fausses Confidences qui avaient monté Besas aussi, il y avait un.
Et je crois qu'on vous avait fait une blague dans Tailleur pour Dames, parce qu'un jour, ils avaient changé le chien, ils avaient mis un chien monstrueux. Vous étiez tombé nez à nez avec.
Non, ça, je pense que c'est quand Jean-Paul Belmondo l'a joué.
Ah, voilà, c'est ça. C'est quand Jean-Paul l'a joué.
C'est quand Jean-Paul l'a joué.
Non, parce qu'il vaut mieux pas blaguer avec Pierre Nidi, il faut faire attention à
non,
ça.
Mais c'est effectivement avec Belmondo. Ouais. Ils avaient remplacé le tout petit chien par un chien monstrueux, il est tombé sur le chien.
Peut-on revenir à l'essence même de cette journée ? Oui, Luca Snyder. Avec cette idée, encore une fois, de mise en scène, je voudrais que nous en parlions un tout petit peu, parce que nous avons lu le texte, mais à le lire, il y a beaucoup d'endroits. Alors oui, l'imaginaire fait son travail au théâtre, mais il y a beaucoup de didascalies aussi,
oui, il y a
beaucoup
d'interventions. Il y a une narration interne.
Donc quels sont les effets de mise en scène auxquels nous aurons droit ?
Pas des effets, c'est-à-dire que pendant, on a cherché avec Besas si cette narration, qui est une partie intégrante du livre, alors là, devait être dite, proférée à voix haute,
face publique,
par le personnage,
comme une lecture, ouais.
Comme quelque chose qu'on raconte, ou si au contraire c'est quelque chose qui vient de son cerveau, qui est donc
une voix qui n'est pas off
d'une certaine manière, et qu'on entend sur des actions qui n'ont pas l'air, qui sont décalées par rapport à ce qu'on entend. Et c'est la version qui a été choisie finalement parce qu'elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte.
Ça veut dire qu'on vous voit jouer sur scène et qu'on entend
votre voix. On voit faire des
voix.
Choses qui n'ont pas de rapport réel avec ce qu'on entend. Mm-hmm. Voilà, mais c'est d'autant plus troublant et puissant. Et sinon, c'est une sorte de commentaire, quoi. Alors il commente lui-même, c'est un commentaire et pas quelque chose qui se passe dans sa tête, ça devient de nouveau, c'est proféré à l'extérieur. Donc il a très très bien fait.
Et il y a beaucoup d'autodérision aussi, d'ironie.
Énormément, dans le texte, mais ça c'est contenu complètement. Quand il parle de sa femme et des volailles qu'elle ramène après s'être... ça, ou Charistéas avec le chien qui lui propose de faire un concours.
Non, puis il y a les deux.
Est-ce que vous ramassez... Je vais vous poser une question délicate maintenant, oui. Vous avez déjà ramassé ? Quoi ? Ah non, jamais, non. Non, c'est... Ah, je savais qu'il y avait un problème.
Et puis, elle joue aussi avec les fils au téléphone.
Alors, les deux fils qu'on ne voit, voit jamais, Hugo et Nicolas.
Mais vous ne savez jamais sur lequel vous tombez.
On ne sait jamais, non, parce que Hugo, non, c'est Nicolas. Hugo est à côté de moi, il t'entend. Il ne peut jamais parler à ses fils qui sont d'ailleurs en réalité des êtres méprisables.
Voilà. Oui, il ne les aime pas beaucoup.
Il les vomit parce que... Parce qu'au fond, ils n'ont jamais attaché d'importance à cet enfant qu'il a perdu et qui est leur sœur. Et qu'ils ont complètement méprisé.
D'un autre mariage.
D'un autre mariage.
Oui,
absolument, oui.
Elle est issue du premier mariage.
Et donc, elle était une quantité négligeable pour eux. Et ça,
ils n'ont même pas voulu lire.
Ils n'ont même pas voulu lire
la lettre d'amour.
Longue lettre qu'elle avait écrite pour leur anniversaire. Et ça, il leur ressort.
Beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour et de réflexion aussi sur la vie, sur nos rapports dans la vie, les uns et les autres, notre rapport vis-à-vis de la vie et du deuil. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec notre docteur qui est venu, Christophe Auré, est venu étayer tout cela. Luca Snyder, c'est à partir du 22 février, ça sera au théâtre de l'Atelier. Voici l'humeur de Daniel Morin, messieurs dames.
Aujourd'hui, mes amis, c'est un jour particulier. Pour la France en général, et pour un ami plus spécialement, il y a 63 ans tout juste, le 3 février 1954, c'était le début de la terrible bataille de Dien Bien Phu.
Oh là 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 là.
Cet ami, il est là, il est présent aujourd'hui parmi nous. Ah ouais. On l'a entendu tout à l'heure, c'est le maréchal Ganache. Maréchal, bonjour.
Salutations.
Ça va ?
C'est
l'anniversaire qui vous plombe ?
Affirmatif. Quand, comme moi, on a fait l'indo, on n'est jamais insensible à Dien Bien Phu.
C'était comment, Dien Bien Phu ?
C'était l'enfer. Pire que la bataille de Gang Bang Phoc.
Ça va, Maréchal ?
Non, c'est trop d'émotion.
Vous voulez un verre d'eau ?
Vous n'auriez pas plutôt du Poppers ?
Ah si, si, bien sûr. Nagui, s'il
ça
vous plaît.
Ça va pas, mais ça va pas.
Ah merci, tenez.
Ah, ça va mieux.
Bon alors, Dien Bien Phu.
Ah, il faisait chaud, il faisait moite. Avec mes hommes, on était planqués dans les bambous déguisés en koala.
Ah, bien vu.
Non, pas bien vu.
Pourquoi ?
Parce qu'en Indo, le koala, ça n'existe pas.
Ah oui, merde.
Comme vous dites. Au bout de... Tâchez-vous !
Un peu de respect.
Tâchez-vous. Au bout de 30 minutes, on s'est fait repérer par les hommes du terrible général Boboon. Un homme aussi vicieux que cruel, colérique et méchant.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, comme vous dites. À moi et mes hommes, il a fait subir les pires des outrages.
Quoi, précisément ? Oh, Maréchal, faut pas vous mettre dans des états pareils. Vous voulez un verre d'eau ?
Vous n'auriez pas plutôt de la cocaïne ?
Ah bah si, bien sûr. Nagui, s'il vous plaît.
Oh, merde.
Merci, Nagui, tenez.
Ah, ça va mieux.
Tant mieux. Donc, Dien Bien Phu.
Ah oui, oui, Dien Bien Phu. Comme l'infâme Boboon et ses hommes se sentaient seuls, ils nous ont obligés à porter des perruques, des talons aiguilles et des robes en lycra près du corps. Et ils nous ont enfermés dans une baraque qui leur servait de bordel.
Quelle horreur.
Ça, c'est sûr. Le lycra, ça me va pas du tout. Je suis tout boudiné, j'ai l'air d'une pauvre piète. Une horreur, comme vous dites.
Non, non, mais la vie au bordel, je veux dire.
Ah, bah non, ça l'est. Comme je n'étais pas au goût des viettes, on m'a mis au bar. En revanche, pour mes compagnons de guerre légionnaires, mieux gaulés, ça a été terrible. Une humiliation permanente et sauvage. La nuit, parfois... Je me réveille en entendant leurs cris qui déchirent la nuit tant qu'ils nous...
Oh, Maréchal, calmez-vous. Vous voulez un verre d'eau?
Vous n'auriez pas plutôt du crack?
Ah ben si, bien sûr. Nagui, s'il vous plaît. Merci, Nagui. Tenez.
J'en ai marre.
Ça va mieux.
Donc, vous en êtes sorti comment?
Par miracle. Une opération commando est venue à notre secours. Opération menée par un général étrange, le général Arditi. Un homme au regard cruel, perçant, qui terrorisait tout le monde, jusqu'à ce que...
Jusqu'à ce que quoi ?
Jusqu'à ce que nos regards se croisent, Arditi et moi.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai eu le coup de foudre.
Vous êtes sûr ?
Eh bien, autant je ne plaisais pas au général Boboon, autant Arditi a craqué pour moi. Il s'est approché du bar et il m'a dit « Je te veux ». Laisse-toi faire, avec moi tu seras heureuse. En plus, en cas de pépin, si jamais je meurs, ton futur est garanti. J'ai une super assurance vie. Ce à quoi j'ai répondu, une assurance vie pour un militaire, c'est rare. Il m'a aussitôt rassuré en répliquant du tac au tac. Oui, je sais, mais j'ai un cousin saltimbanque à Paris qui travaille à la MAF. Ah, les assurances, ça me rassure. Du coup, j'ai craqué et on a vécu 3 mois intenses.
Et pourquoi ça s'est arrêté ?
Ah, sur le bateau qui nous ramenait en France. Concordia, il est tombé amoureux d'une femme.
Salope.
Ah ça, oui.
Elle s'appelait comment ?
Cerise, de chez Groupama. Cette chiennasse a ruiné ma vie.
Merci Maréchal, bon week-end.
Sur France Inter.
Albert Algoué, Daniel Morin.
C'est horrible.
Pierre Arditi.
On a les dieux qu'on mérite.
Pierre Arditi est au théâtre de l'atelier à partir du 22 février, le Casse-Neige, mais vous êtes également. Vous serez à l'affiche du film Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos. Et d'ailleurs, nous recevrons Doria, Tillier et Nicolas. Ça sera le 7 mars qu'ils seront nos invités, la veille de la sortie du film, où vous êtes, paraît-il, odieux dans ce film. Oui. Personnellement, je le vois la semaine prochaine.
Oui. Mais oui, c'est une participation, mais c'est assez marrant.
Il paraît que vous êtes déjanté.
Oui, ça m'a beaucoup amusé. J'ai adoré faire...
Là, vous êtes réac.
Ça. Ah oui, là, le personnage est épouvantable. Mais c'est ça qui est rigolo. Non, ça m'a fait très plaisir que Nicolas... Enfin, il m'a dit, je voudrais que tu sois mon père. Alors moi, évidemment, je lui dis, je vais faire Guy. Bon, alors, d'accord, en fait, je n'avais pas bien compris. Non, pas du tout, c'est évidemment pas du tout Guy Baudet.
Vous jouerez également sous la direction de José Dayan, à moins que ce soit déjà filmé. Capitaine Marlowe.
Oui, c'est fait.
C'est fait.
Oui, ça va d'accord. Passer là, avec...
Sur France 3. Et quelque chose a changé de Jacques Santamaria, là où vous retrouvez votre douce Evelyne Bouygues. Vous allez le tourner ou vous l'avez déjà tourné ?
Non, ça, je vais le tourner et je vais parallèlement probablement tourner le prochain film de Valeria Bruni-Tedeschi.
Et vous serez quel personnage ?
Je serai un personnage.
Oh, ça va.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.
Chuchote,
je reçois le scénario tout à l'heure.
Ah, donc d'accord. Vous avez dit oui sans le lire ?
Oui, il y a des gens auxquels on peut dire oui sans lire. voyez. C'est beau, il y a des gens auxquels on peut dire non après avoir lu, et des gens auxquels on peut dire oui sans lire. C'était le cas des gens avec qui vous René, dites... par exemple. Je n'ai...
Est-ce qu'il y a des gens à qui vous dites non sans avoir lu? Parce que vous ne voulez pas travailler avec eux?
Il doit y en avoir.
Non, je pense que je ne fais jamais ça. Parce que je me dis toujours qu'à un moment donné... Non, je ne fais jamais ça. Non, je lis. Non, là,
humainement,
je lis.
Même pas humainement, c'est pas tant pour le script que pour la personne.
Il y a peut-être des gens que vous n'aimez pas.
Vous n'avez pas envie d'être dirigé par telle ou telle personne, c'est peut-être...
Écoutez, au théâtre, ça pourrait m'arriver, peut-être. Ouais. Mais au cinéma, ce n'est pas pareil. Parce que au théâtre, c'est une vie commune qui est longue. Ouais. Alors là, ce n'est pas commode, effectivement. Mais non. Je prends la peine de lire, quand même. Parce que... Personne n'est monolithique. On peut avoir fait une série de choses qui, par exemple, ne m'intéresseraient pas. Puis tout d'un coup, je sais pas, mais il y a des tas d'exemples, je ne citerai personne, mais des cinéastes qui ont fait, par exemple, un cinéma très classique, très comme ça. Puis tout d'un coup, sur un film ou deux, il sort quelque chose d'eux qu'on n'avait pas imaginé ou pas fait. Par exemple, le film de Nicolas Bedos, qui est un très joli scénario, qui est un scénario assez noir d'ailleurs, tout le monde pense, ah oui, alors c'est Nicolas Bedos, il va faire. Pas du tout. Il va surprendre énormément dans le film. Et sa copine est vachement bien. Et c'est une autre image qui est très troublante, très déroutante et très attachante, justement.
Voici le boulon de culture de Leïla Kadrouboudadi pour Pierre Arditi.
Pierre Arditi, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Mmh. Et on commence par un premier son pour vous.
Toujours attendu.
Heureusement que vous êtes revenu. Avec vous dans la maison, je me sentirai en sécurité.
Toujours convaincu.
Chaque fois que quelqu'un s'oppose à vous, il meurt.
Vous y êtes allé un peu fort, non?
Oui.
Mais jamais pris au dépourvu.
Vous souhaitez commencer par quoi? La visite de nos caves?
Non, si vous le permettez, je préférerais commencer par humer vos vignes.
Voilà, c'est le teaser de la série Le sang de la vigne.
Je cherchais.
Oui, si vous ne reconnaissiez pas. C'est une série qui met en scène les investigations menées par un éminent œnologue, Benjamin Lebel, que vous incarnez. C'est une série diffusée sur France 3 qui a réuni 4 millions de téléspectateurs à chaque épisode. C'est un carton en termes d'audience.
Oui, enfin entre 3,5 et 4,4,4,2. Oui, c'est un très, 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 très
belle audience. On peut dire que c'est un carton entre 3,5 et 4.
Oui, très bien. Oui.
Et la série vient d'être arrêtée malgré le succès.
Oui.
Comment ça se fait? Moi, je trouve ça fou.
Écoutez, ça, faut demander ça à la direction de la chaîne. Hein. Moi, je suis pas décisionnaire.
Est-ce que vous êtes étonné?
Je pense qu'on en a fait 22 épisodes. Ouais. C'est très bien. Ça fait les dernières audiences sont très fortes.
Oui.
Je pense qu'ils ont envie de renouveler.
Ouais.
Voilà, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit et je peux le comprendre tout à fait. Alors ça paraît toujours un peu étrange.
Oui, quand quelque chose marche très bien.
Quand un truc marche comme ça, pourquoi l'arrêter?
C'est fou.
Il n'y a pas vraiment de raison. Donc c'est vrai que honnêtement, si je vous disais que ça ne me fait rien, je mentirais. Mmh. J'ai un petit pincement au cœur parce que j'aimais bien cette série qui est un peu atypique. Je l'aime bien, j'aime bien le personnage, je m'amuse avec ça, j'aime bien le monde du vin. Voilà. Après, la chaîne décide autrement. C'est pas un divorce, hein. On fait autre chose. Le capitaine Marlowe fait la comédie que je vais tourner cet été, c'est pour eux. Donc il y a pas un côté bon, ça va, il est trop vieux, on en veut plus, on va passer à autre chose. C'est pas ça. Ils ont envie de renouveler. C'est leur droit le plus strict. Voilà. Alors c'est toujours un peu étrange en même temps. Bon, on fera autre chose.
Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est une belle série.
Oui, c'est
on
bien.
Voyage,
oui,
en plus.
J'en aurais bien fait comme ça 2-3 ans de plus. Oui, bien sûr.
Le cadre était sublime. On va dans toutes les régions de France. On visite en fait les vignobles.
Les gens en vacances, dans tous les sens du terme. Mais voilà. C'est bien. Ouais.
Donc on appelle de nos voeux une nouvelle série comme ça, où vous pourriez incarner...
Alors vous envoyez des démos, envoyez-leur des mots.
D'accord, on va faire ça.
Directement à Anne Holmes.
D'accord.
Holmes, pardon.
Holmes, c'est Sherlock.
C'est Sherlock. C'est pas loin de Benjamin Lebel.
C'est de la fiction sur la 3, mais elle est brillante en plus.
C'est ce qui marche le plus.
C'est un talent incroyable.
C'est la fiction, absolument. C'est brillant.
On poursuit avec un autre son pour vous.
15 jours avant la sortie, Suzanne Beckett a dit à Sam, tu devrais aller voir peut-être Lindon tout de même avant qu'il sorte le livre, ce serait plus gentil. Sam est venu voir et nous avons parlé, je n'ai plus le moindre souvenir de notre conversation, nous étions sans doute aussi intimidés l'un que l'autre, et il est rentré chez lui et avec une figure très sombre, et Suzanne lui a dit, tu as vu Lindon? Oui. Et tu ne l'as pas trouvé sympathique? Et Sam m'a dit, si, justement, quand je pense que ce type va faire faillite à cause de moi.
C'est Jérôme Lindon, l'éditeur, parlant de sa première rencontre avec Samuel Beckett, un auteur très secret. Et un jour, Pierre Arditi, vous avez respecté vous aussi ce côté secret de Beckett, car dans une interview, vous racontez que vous l'avez croisé du côté de Montparnasse, sans oser le saluer. C'était impossible.
Non, je suis passé... Il y a eu deux rencontres comme ça. Alors Beckett, oui. Cette espèce de silhouette de ce profil d'aigle. Oui. Il a une tête absolument magnifique. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est à l'époque où je devais jouer au théâtre de Lutèce, qui aujourd'hui n'existe plus, qui est un théâtre privé qui appartenait à Lucie Germain, qui était femme de banquier et qui a dilapidé une partie de la fortune de son mari dans ce théâtre absolument magnifique. C'était un théâtre privé et qui a un palmarès qu'aucune maison de la culture ne peut revendiquer aujourd'hui. Elle a créé à pratiquement tout. Tout. Beckett, Ionesco, Arabal, Pinget, Mauriac, tout, absolument tout.
Pardon, vous disiez qu'il y avait deux rencontres comme ça que vous avez
alors,
eues.
Alors, ça, et Beckett, s'est croisé. Alors, j'ai regardé comme ça. Il était très grand, très long, comme ça. Un aigle, quoi, un aigle.
Parce qu'avant d'évoquer
j'ai
l'autre
pas osé,
rencontre...
J'ai pas osé. Et l'autre, c'est Sartre et Beauvoir, rue du Dragon. Mm-hmm. Voilà, où je marchais comme ça, ils arrivent en sens inverse. Et je suis resté comme une espèce de nouille. Je lui dirais bien quelque chose, et puis je savais pas quoi dire. J'étais fasciné, quoi.
Et qu'auriez-vous dit, pour revenir à Beckett,
Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire à cette époque-là? Si j'ai pas osé lui parler, c'est que je savais pas quoi dire. Et pourtant, j'étais déjà très attiré, oui, fasciné par ce qu'il écrivait, et cette écriture extrêmement minimaliste qui dénotait par rapport à tout un autre théâtre qui était un théâtre verbeux, oui, parfois d'ailleurs de très belle qualité. Moi, à l'époque, je jouais au Diberti, alors c'était vraiment... C'est les extrêmes.
Les extrêmes, oui.
J'avais travaillé là un texte de lui qui s'appelle « La dernière bande », et qui est un type qui parle à un magnétophone comme ça et qui bouffe des bananes. Et ça m'avait absolument fasciné, je sais pas, je lui aurais dit, écoutez, monsieur, j'ai lu ce que vous écrivez, je trouve ça magnifique, j'aimerais tellement jouer ça un jour, voilà, sans doute, probablement, j'aurais dit un truc de groupie, quoi. Bon, j'ai pas osé. Puis,
j'aime beaucoup ce que vous faites, en fait.
Oui, j'aurais dû dire quelque.
Et Alain.
Oui, je regrette. On regrette toujours de pas avoir eu.
Mais Sartre aussi et Simone de Beauvoir, j'ai l'impression aussi que vous regrettez.
Oui, parce que ça fait partie de. C'est des gens. Enfin, il y a des gens qui font partie de votre vie, quoi qu'il arrive. En bien, quelquefois en mal, d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas ni pour Beckett, ni pour Sartre-Beauvoir. Oui, on aimerait s'arrêter deux secondes là-dessus, en disant, on boit un café, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de... Voilà, bon, on voudrait pouvoir partager avec des personnalités aussi puissantes.
Et pour finir, un cadeau pour vous, une autre bande dessinée, Pierre Arditi, c'est le rugby, dans les éditions La Petite BD Tech des Savoirs, c'est signé Olivier Bras et Guillaume Bouzard, puisque le tournoi des Six Nations approche dangereusement. Ah. Donc c'est l'occasion de se replonger dans la genèse de ce sport, qui aurait débuté en 1823 où un jour, lors d'un match de foot, un des joueurs, un certain William Webb Ellis, a enfreint les règles. Il a pris le ballon à la main et on s'est dit, tiens, ben pourquoi pas inventer une autre discipline. Et donc, dans cette collection, une notion est expliquée en dessin, en bande dessinée. C'est vraiment très, très riche. Et il y a pas mal d'anecdotes qui, à mon avis, vous raviront. Une façon de, là aussi, de connaître un peu mieux cette discipline.
Je tombe sur la tronche de Chabal.
Vous aimez le rugby?
J'aime bien le rugby.
C'est vrai?
Je préfère la mentalité du rugby à celle du foot, enfin de ce qui est devenu le foot.
Ouais. Y compris le reste.
Il y a un dictionnaire amoureux du rugby de Herrero qui est formidable.
C'est un autre mode de vie. Quoique ça commence à gagner, mais enfin quand même, ça reste encore. Moi, ce qui me fascine au rugby, c'est que les mecs, c'est des baraques, quoi. Et souvent, les arbitres de rugby sont des mecs assez fins.
Ils le respectent
comme ça,
mais ils le respectent.
Messieurs,
quand il monte à une montagne, qu'il a fait une faute comme ça, le mec ne dit pas un mot, rien, il repart dans ça, il s'excuse et puis il se tire. Au foot, dès qu'il y a un truc comme ça, le mec.
Donc j'imagine que samedi, demain après-midi, vous serez devant France-Angleterre, évidemment.
Non, demain après-midi, je serai en train de répéter, si ça ne vous ennuie pas trop, parce que si vous voulez que je joue le cas Snejder, il faut quand même que je bosse un peu. Alors je ferai...
Les répétitions, vous ne les faites pas in situ, c'est-à-dire le soir, pour être dans le même rythme de vie
Oui, non, vous savez que ça n'a pas l'air, mais c'est un vrai boulot. Hein.
Non, mais je pose la question.
D'autant plus que là, on est dans les derniers lacets, donc c'est du genre midi-minuit. Hein. Voilà.
Ah, carrément.
Ah oui, carrément, oui.
12 heures par jour.
Ah oui, oui, sûrement. Et ça sera même encore probablement un petit peu plus, parce qu'il y a un petit travail personnel. Quand on sort de répétition, on se dit, tiens, il faut que je revienne. Donc on regarde le texte, on revoit des trucs. Oui, oui, oui. Il faut travailler beaucoup avant pour ne pas avoir l'air de travailler pendant.
C'est ça. Ça sera à partir du 22 février, vous l'avez entendu. Il sera prêt, Pierre Arditi, pour le théâtre de l'Atelier. Mais si, mais vous l'êtes déjà, le texte, vous le connaissez par cœur.
Mais on a hâte de venir voir ça au théâtre de l'Atelier.
Absolument. Ah ouais, vraiment. Fait très plaisir.
Voici L'œil Carner.
No, I don't believe it. But know that I've been grieving. Know that I've been holding out, hoping to receive him. I've been holding out for G, but he was nowhere to be seen when I was bleeding. Cousin with the choking and the wheezing. But still he dreaming, smoking potent in the evening. This is only for the heathens. Holding to the souls who need redeeming from the demons. Still ain't folding when it's freezing. There ain't no one to believe in. I'm on that man's side, damn right. Doing it myself from a landslide. Stand by, didn't need no help from no damn guy. Man, bye, I've been making waves all my damn life. Plan my step to the letter and I stand by it. Try it, we ain't holding back if it backfires. Lacks, not the ones who carry crack till they're back tired. Thought they make a meal till it transpired. I ain't like them damn liars. I'm saying I ain't like them damn liars. Trust, told him I get like them damn liars. So keep your mouth closed shut, eyes wide open when that doubt rolls up. Cause if the drought shows nothing but the clowns, hold nothing but the sound, I'll be running till the ground open up. Cause the best don't change, clicking to that cold one. My mother said there's no love until you show some. So I showed love and got nothing, now there's no one. You wonder why I couldn't keep in tow, son. I wonder why my dad didn't want me, ex didn't need me. Half of them left and the rest finna breeze me. Gets blessed till I second guess, rest till it frees me. There's nothing to believe in, believe me.
L'œil Carner, c'est votre bande originale ce matin sur Inter avec notre invité Pierre Arditi qui sera au théâtre à partir du 22 février pour le cas Snyder. Cette pièce est l'adaptation faite par Didier Bezaz du roman de Jean-Paul Dubois avec Pierre Arditi, Charles-Roger Bourg, Sylvie Dobrin, Morgane Fourcault, Thierry Gibault et la présence d'un chien, Fox. Puis citons également Aurélien et Mathias qui prêteront leur voix à vos deux jumeaux que vous n'aimez pas beaucoup mais qui n'ont pas été très tendres non plus avec votre fille Anne. Qui a malheureusement péri.
Non, ma fille, c'est Marie. Anne,
ah oui, Anne c'est la femme. C'est la femme qui trompe, c'est ça. Et il y a Marie, il y a cet ange qui est parti et qui apparaît aussi de temps en temps dans la pièce, comme dans les... on a parlé tout à l'heure du deuil, voilà, comme dans les rêves de votre personnage. Des excuses à présenter, j'imagine.
Désolé déjà pour les fans du comédien Pierre Arditi qui ont découvert ce matin que pour préparer son rôle, il n'avait même pas lu le livre dont la pièce est tirée. À croire que Leïla, pour une fois, avait raison hein, quand elle disait que Pierre était devenu une sacrée feignasse. Désolé pour nos auditeurs, tous nos auditeurs, les trois auditeurs jeunes qui nous écoutent et qui ont été quelque peu déprimés par l'ambiance mouroir, sonde urinaire et art de vivre de l'émission de ce matin. Franchement, je comprends pas. Et puis, de toute façon, hein, bande de cons, vous allez crever vous aussi. Désolé pour Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Eh oui, déjà, à l'époque, il ne savait pas quoi vous dire, Pierre Arditi, mais pas de regret, les gars. Aujourd'hui encore, il a pas les mots.
C'est moche. Il laisse rien passer.
Ah, on est peu de choses.
Non, mais il ne faut pas compter sur lui pour vous aider. Non, c'est pas possible.
Bien compris.
Merci, Pierre. Portez-vous bien. Et oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, profitons-en pour le dire maintenant. Je vous aime, en tout cas. J'étais ravi de vous accueillir.
Et moi aussi, je vous aime.
Portez-vous bien. Nous aurons Marc Vera comme invité lundi. Passez un bon week-end. Et voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand sur Inter.